Bon, oui, ça va, oui, c'est parfait, merci. Ce dont je peux vous parler, c'est d'une aventure, une aventure de conviction, parce que là, dans le type de présentation entre éditeur public et éditeur privé, je ne sais pas comment me positionner, puisqu'on pourrait résumer comme éditeur privé associatif, dont la main-d'œuvre repose sur du public, puisque nous sommes tous ceux qui sont impliqués dans la revue, le comité de rédaction ou la direction de la revue, ce qui est mon cas, on est tous des universitaires appointés par de l'argent public. Donc on a une situation un peu bizarre, mais nous ne recevons aucun financement sous forme de subvention, d'aide à la publication en termes d'argent public. On n'a pas du tout, on n'a pas d'ordre, sauf ponctuellement pour des traductions d'articles étrangers qu'on publie en français. Donc, alors, ce que je peux faire, c'est rappeler, en fait, des intentions et aussi évoquer les difficultés pour faire vivre une revue, une revue un peu innovante, qui se revendique d'une revue savante de bon niveau. Bon, haut niveau, c'est toujours un peu prétentieux, mais une revue exigeante, disons, et scientifiquement exigeante, qui s'est installée dans un espace universitaire qui s'est constitué tardivement, les sciences et techniques des activités physiques et sportives, mais dans un univers où, néanmoins, il existait, à l'état dispersé, un ensemble de productions antérieurement. Et une revue phare de la discipline, mais qui était une revue pluridisciplinaire qui s'appelait la revue STAPS, qui a été créée en 1980 ou 1981 à l'initiative d'une société qui s'appelait l'Association francophone des activités physiques et sportives, la FRAPS. Et je dirais que c'était une revue de combat, en quelque sorte, parce que ce qu'on connaît aujourd'hui, avec le succès d'estime que cette filière connaît dans le rang des bacheliers, cette filière n'était pas universitarisée avant 1983. C'est-à-dire que les STAPS sont entrées à l'université en 1983. Avant, elles étaient domiciliées ailleurs, dans le giron des études de médecine et sous le contrôle de Jeunesse et Sport, en fait, et pas du tout du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc, en fait, la revue STAPS, qui existe toujours, ils ont publié l'année dernière, enfin, ils en sont à leur 115e numéro depuis ou 116e, hein, à une unité près, je me trompe peut-être. Mais cette revue était à la fois une revue professionnelle, pluridisciplinaire, et je dirais en plus militante. C'est-à-dire qu'elle a regroupé en quelque sorte historiquement les premiers enseignants-chercheurs qui travaillaient dans différentes spécialités autour de l'objet sport et éducation physique, surtout. Et donc ils ont créé cette revue comme un instrument de combat pour montrer, sous la forme d'une revue scientifique, au fin de montrer que, bah oui, dans le domaine du sport, on faisait aussi de la science et qu'il était légitime d'entrer, comme d'autres spécialités, à l'université. Donc voilà ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la revue STAPS a été aussi une arme de combat en faveur de l'universitarisation de la filière STAPS, ce qui a été obtenu lorsque les socialistes sont arrivés au pouvoir en 1981. Ça s'est fait. Bien. Alors, notre revue, enfin celle que j'ai l'honneur de diriger, a été créée, c'est un bien grand mot, on peut dire que dans l'esprit de ses fondateurs, elle a été créée en 2001. On peut dire ça comme ça. Mais la période de gestation a été assez longue, puisque le premier numéro est apparu en 2008. En 2008. Et les intentions fondatrices étaient justement de se doter d'une revue spécialisée en sciences, dans le domaine des sciences sociales, avec deux entrées principales, l'histoire et la sociologie, de trouver un modèle économique qui puisse permettre de la faire vivre, et surtout qui dépasse un petit peu ce que produisait la revue STAPS. Alors, c'est pas qu'on... C'était pour nous un contre-modèle, mais on voulait faire tout à fait autre chose. C'est-à-dire que la revue STAPS était plutôt, on va dire, une revue mi-savante, mi-professionnelle. C'est-à-dire, et avec tous les toutes les difficultés. C'est-à-dire que, bon, je suis méchant avec mes collègues qui ont fait cet effort-là, mais bon, nombre d'articles qui étaient publiés, bon, aujourd'hui, ça n'irait plus du tout, quoi, vu les contrôles croisés qui s'applique sur les productions scientifiques. Bon, on n'était pas dans une rigueur extraordinaire, d'autant plus que tout ça a été couplé avec un militantisme tout à fait généreux et légitime, et également une interdisciplinarité, ce qui faisait que aucune discipline n'était plus visible qu'une autre. C'était un peu, voilà. Et avec aussi une intention de servir les intérêts des principaux lecteurs, qui étaient les enseignants d'éducation physique et sportive à l'école, dans collège, lycée, et les étudiants qui se formaient au métier de professeur d'éducation physique. Donc nous, ce que nous avons souhaité, c'est véritablement créer une revue qui s'inscrive non pas véritablement dans l'univers des STAPS, mais dans l'univers des sciences sociales. C'est-à-dire une revue scientifique spécialisée. Alors ce qu'on fait assez peu en France, finalement. Alors, il y en a quelques-unes quand même, mais dans le monde anglo-saxon, dans l'univers de la... anglo-saxon, il existe un nombre, alors je ne vais pas dire incalculable, mais il existe plusieurs grandes revues, hein, Impact Factor, etc., qui se donnent le sport pour objet et pour terrain. Donc on comblait aussi dans la production internationale de connaissances sur le biais du sport, hein, une sorte de lacune en langue française. Alors cette revue, elle est française, elle est domiciliée ici, elle est domiciliée à Nantes du point de vue de son adresse physique, mais sa prétention, et c'est aussi pour ça que nous sommes passés par l'éditeur L'Harmattan, pour nous assurer le travail de diffusion en librairie, en bibliothèque, etc., dans la version papier, c'est pour ça qu'on s'est associé à L'Harmattan, c'est que l'intention est c'était aussi de faire une revue francophone, et non pas simplement française. On a pensé à l'Afrique, on a pensé aussi à l'Amérique du Sud, hein, où le monde universitaire sud-américain fréquente la langue française, hein, bien plus que l'univers nord-américain, bien sûr. Donc en fait, l'intention, c'est une revue francophone. Et comme L'Harmattan, je ne sais pas, vous le savez sans doute, mais ses fondements, c'était aussi de créer une édition française, francophone, qui débouche ouverte notamment sur l'Afrique. Bon, ça nous semblait intéressant de se rapprocher de cet éditeur de façon à assurer la diffusion. Bien. Alors, comment ça a été créé? Eh bien, par l'investissement de deux sociétés savantes qui existent toujours, hein, la Société de sociologie du sport qui a été créée donc en 2001, et dont l'un des projets fondateurs était à terme de fonder une revue. Et l'autre société, c'est la Société française d'histoire du sport, qui préexiste, qui a été créée dans le milieu des années 80. Et donc, on s'est associé de façon à mettre la main à la poche chacun sur la base de nos petits budgets, de façon à financer les premiers numéros, se rapprocher d'un éditeur, se doter d'un comité de rédaction. Alors très vite, les combats qu'on a menés ont été tournés vers le libre accès, hein, tout en ménageant nos auteurs, ménageant leurs droits, mais d'intervenir au public. Donc très tôt, dans les contrats de publication, contrats de cession des droits plus exactement, dont on s'est doté, on a cherché à ce que ce que l'on publiait devienne public au bout de 2 ans. Donc là, on annonçait aux auteurs que, bah, de toute façon, nous, on ferait rentrer dans le domaine public au bout de 2 ans les publications qui nous soumettaient. Donc c'est quelque chose qui nous a animés. Bon, c'est de la conviction, hein, c'est de la conviction. Politique, sociale, ce qu'on veut, peu importe, mais l'idée, on est des fonctionnaires, on est payé par l'argent public, et ce qu'on produit, n'a pas à être privatisé par la vente des œuvres que l'on produit sur la base d'argent public. C'est de la conviction, hein, je vous l'accorde. Mais voilà, c'est le sens de notre action. Alors, notre public, notre lectorat, dès lors qu'on a vraiment pris le parti de générer, de créer une revue véritablement savante, hein, inscrite dans l'univers de la sociologie, sur le plan scientifique, mais plutôt inscrit dans l'univers des STAP sur le plan académique, pour une raison très simple, c'est que l'essentiel des auteurs, pas tous, hein, mais on peut dire qu'à 80%, les auteurs que l'on publie ou qui nous soumettent des textes sont des individus, sont des collègues qui relèvent du point de vue du CNU, du point de vue administratif, du point de vue académique et universitaire, de la section 74 du Conseil national des universités, de la section STAP, ce qui est une session pluridisciplinaire. Alors c'est là que je voulais vous en venir. Se faire vivre d'une revue, tu parlais dans l'introduction des partenaires invisibles des éditeurs, et ceux-là, ce sont des beaux et des lourds. Je vais être méchant, j'espère qu'il n'y a pas de représentants de ces vénérables institutions ici. J'ai été élu au CNU, donc je parle aussi d'une institution à laquelle j'ai contribué. Mais voilà la difficulté. Une section pluridisciplinaire est capable de vous tuer une revue. Les critères d'évaluation des œuvres et des personnes au CNU STAP, ce sont les critères des sciences dures. L'Impact Factor, Simago, etc. Donc lorsque vous publiez dans une petite revue francophone, française, des très bons articles, hein, qui vraiment, il n'y a pas de souci là-dessus, mais que vous ne correspondez pas à ces critères-là, eh bien, il suffit de regarder les niveaux de qualification, le congé, conversion thématique accordée, suivant les disciplines en STAP, c'est tout est dit. Tout est dit. Donc, on a souffert dans les lancements de cette revue, on en est sorti, mais par notre travail de conviction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la revue a symboliquement, dans l'ordre des représentations de la valeur scientifique, acquis une position plus qu'honorable, qui fait qu'aujourd'hui, on reçoit beaucoup plus de textes qu'on recevait par le passé. Mais les gens ne nous envoyaient pas de textes, parce que être publié chez nous, ce n'était pas vraiment se garantir de pouvoir valoriser ces productions, que ce soit devant le HCERS, parce que la section HCERS, c'est pareil, elle est pluridisciplinaire, elle impose les mêmes critères. Et pour le HCERS, ils ont supprimé, en STAPS, ils ont supprimé le principe d'une liste des revues. Donc, ne compte plus que les classements internationaux, l'Impact Factor, Simago, Reuters, etc. Point. Donc il a fallu se battre. Ici, j'ai ramené ici, je ne vais pas vous refaire le truc, mais ça a été un combat. Hein. Le principal combat pour faire vivre cette revue, ça a été le SERS, le CNU. Alors là, j'ai des courriers, des interpellations, Michel Cosnard, le directeur. Voilà, ça a été ça, nos principaux combats, nos principales difficultés. Alors sur le modèle économique, c'est simple. Comment on fait vivre cette revue? On paye sur la base des contributions des membres de nos sociétés. Les petites taxes que l'on prend ici et là sur les congrès, les contributions volontaires et solidaires des membres de nos deux sociétés. Et nous avons, chaque numéro nous coûte 1200 euros. Nous sommes passés depuis l'année dernière à deux numéros par an. On s'est tenu à un numéro par an pendant... jusqu'à l'année dernière, pardon, je compte pas très vite. Et là, la revue ayant acquis, je dirais, une notoriété relative, les articles, c'était dès le début dans le projet, l'idée d'aboutir à deux numéros par an, donc on y est. Mais il a fallu du temps pour y arriver, et les plus grosses difficultés ont été celles de nos institutions de tutelle, en quelque sorte. Alors, sur le plan, le modèle économique, c'est simple, nous sommes passés par un éditeur, l'Harmattan, que tout le monde connaît, qui nous assure l'impression, qui nous a même fait le nouveau maquettage, parce qu'on avait fait ça comme des amateurs. Ça, c'est la première version de la revue, très austère, grise, c'est pas très encourageant. Hein, voilà. Et l'Harmattan nous a fait ça maintenant, donc c'est un peu plus joli, quoique. Moi, je suis pas graphiste, donc je ne me permets pas de juger. Je ne vais pas dire que ça me séduit absolument, mais c'est un peu plus attirant quand même que la version antérieure. Bon. Qu'est-ce qui nous coûte? Ce qui nous coûte, c'est les relectures, corrections, parce qu'on a beau être... on écrit, on sait lire. Chaque texte subissait trois lectures de membres du comité de rédaction avant mise en forme pour l'impression, mais ça ne suffisait pas. Trois professeurs ou maîtres de conf à lire des textes savants de leur discipline, ça ne suffisait pas. Donc, on recourt à correcteurs, correctrices professionnelles. Et nous avons bénéficié un certain nombre d'années d'une aide d'un laboratoire de Lille, je vais le nommer parce que c'est une aide généreuse, il s'agit du Clerzé à Lille, qui a mis à notre disposition justement tout le travail de maquettage par une ingénieure d'études qui malheureusement a pris sa retraite l'année dernière. Et donc depuis l'an dernier, nous devons rajouter à nos charges tout le maquettage, la mise en page, etc. Nous faisons sous-traiter ça à un privé, voilà. Donc, que puis-je dire encore? Eh bien, nous passons effectivement, nous sommes diffusés également par Cairn. Par Cairn, donc avec un embargo d'un an, en version payante au numéro pour ceux qui ne bénéficient pas d'abonnement universitaire. Voilà, et nous n'avons aucune recette économique de l'éditeur. On va peut-être aller quand même demander un peu de sous, parce que là, les niveaux de consultation de cette revue, sur les derniers que j'ai tirés hier... On est pour 2019, alors par rapport à des grandes revues disciplinaires, généralistes ou spécialisées, on est sans doute assez loin du compte. Mais pour le premier numéro 2019, on est à près de 7000 consultations sur Cairn. Et pour l'ensemble des deux numéros de l'année dernière, c'était la première année à deux numéros, on était à 10 600 consultations. Enfin, téléchargements, pardon. Je ne parle pas des consultations, des notices qui explosent par rapport à ça, bien sûr.
Voilà. Merci Gildas pour ce premier tour de table, il est assez complet.
Voilà, merci.
Et je retiens deux choses, cette question de la dynamique d'une revue mi-savante, mi-professionnelle qui s'installe dans le paysage des revues sciences sociales, et puis ce combat au quotidien aussi. Ce matin, on a insisté sur l'enjeu des personnes et du jeu des personnes aussi, qu'un départ à la retraite, qu'une mutation peut aussi bien sûr faire basculer la vie d'une revue. Et puis ce que peut vouloir dire être tout contre l'institution et comment effectivement identifier le rôle de ces instances importantes, CNU, HCRS pour ne pas les mentionner. On continue, je vous propose le tour de table, et puis Pierre Chabard, édition de la Villette.